Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. À chaque émission, je reçois un invité ou une invitée qui vient se raconter à travers son parcours et comment il éduque ses enfants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver Maïmouna. Maïmouna, comment tu vas ?
Eh bien, je vais bien, Aminata. J'espère que c'est pareil pour toi.
Impeccable. Maïmouna, je te remercie d'être venue. En plus, tu es mon amie. Donc, les auditeurs vont apprendre à te découvrir comme moi. Je vais découvrir des recoins de la femme et la mère que tu es. Exactement. Maïmouna, tu es maman. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui combien d'enfants tu as et quel est le contexte dans lequel tu évolues ?
Alors, moi, j'ai 3 enfants. Donc, j'ai une fille de 6 ans. Et des jumeaux de 3 ans et demi. Et du coup, je suis mariée avec un homme depuis 7 ans qui a 2 grandes filles de 14 et 18 ans. Donc, on est une famille recomposée.
Une famille recomposée. Tu es une femme engagée, éducatrice spécialisée. Tu as été enseignante en SECPA. Donc, le milieu de l'éducation, tu connais. On va d'abord revenir sur ton parcours avant de découvrir comment justement cet engagement dans l'éducation vient se traduire dans ta vie du quotidien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as grandi ? Est-ce que tu as grandi avec tes parents ? Est-ce que tu as grandi avec des frères et sœurs ? Raconte-nous.
Alors moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse avec mes parents qui étaient très présents. Donc j'ai 2 sœurs et 4 frères. Donc, dans mes souvenirs, on a toujours été une famille unie, on se chamaillait, on rigolait, des moments où on discutait tous ensemble, où il y avait du monde à la maison, des cousins, des cousines, des tatas. Donc j'ai toujours grandi dans un univers, une ambiance familiale très chaleureuse et avec énormément de monde, quoi. La maison du bonheur.
La maison du bonheur. Qui pose le cadre à la maison ? Ton père, ta mère ?
Je dirais les deux, mais de manière différente. Mon père, il travaillait beaucoup. Et à côté, il avait vraiment une vie associative très développée. Parce que du coup, il œuvrait beaucoup pour le développement de notre village au Sénégal. Donc, avec beaucoup de créations et de liens avec des partenaires, des réunions associatives. Donc, très peu présent le week-end, également peu présent en semaine parce qu'il travaillait, mais quand il était là, on savait qu'il était là, quoi. Et donc, du coup, ma mère, elle a eu tout le côté éducation, le côté où on s'occupe des enfants le matin avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail. On fait en sorte qu'ils ont à manger le midi quand ils rentrent, le soir, pareil. Donc, je dirais que les deux ont participé à notre éducation, mais vraiment à des niveaux très, très différents.
Et dans la fratrie, comment ça se passe ? Est-ce que tu te sens plus proche de certains de tes frères et sœurs ? Quelle place tu as ? Quel rôle tu as ?
Alors, je me suis toujours sentie, en tout cas plus jeune, plus proche de mes frères. Parce qu'en fait, j'ai un frère avec qui, on se suit, quoi. Et on nous appelait les jumeaux du bout du monde. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un dessin animé comme ça, les jumeaux du bout du monde. Et on nous appelait comme ça, les jumeaux du bout du monde. Et ensuite, j'ai un autre frère qui a 2 ans de plus que moi, mais du coup, on est 3 à se suivre. Donc, c'est vrai qu'avec mes frères, j'ai été très proche. Et c'est en grandissant là que du coup, je me suis beaucoup plus rapprochée de mes sœurs. Ensuite, la place que j'ai eue en grandissant, ça a été celle qui gérait tout l'administratif. Voilà. Tu vois, le suivi administratif. Voilà. Les accompagnements chez le médecin des parents. Enfin, tout ce côté-là, voilà, c'était mon rôle.
Comment tu te définirais, Maïmouna, adolescente ? Comment ça se passe pour toi, l'adolescence, jusqu'à ce que tu rentres dans ta vie de femme ?
L'adolescence, je dirais que j'étais une adolescente, en tout cas à la maison, assez isolée. Voilà, j'étais des souvenirs que j'ai, c'est je me voyais beaucoup dans ma chambre, à écouter de la musique, à lire, à faire mes devoirs. J'avais beaucoup ce côté-là. Et ensuite, avec mes relations extérieures, j'avais très peu d'amis. J'avais deux vrais amis avec qui vraiment j'étais tout le temps. À côté de ça, j'avais pas un cercle amical énorme. Voilà.
Quand tu as 17, 18 ans, avec les deux amis que tu as, est-ce que vous parlez, est-ce que vous projetez dans une vie future, est-ce qu'on s'imagine maman, est-ce qu'on s'imagine en couple ou pas, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on avance tout simplement dans la vie sans se poser des questions?
Alors, nous, on en a beaucoup parlé et puis moi, j'en parlais énormément parce qu'en fait, dans cette configuration familiale, j'ai ma grande sœur qui a eu son premier enfant, qui s'est mariée très jeune et qui a eu son premier enfant très jeune. Elle avait 19 ans. Et donc, quand il est né, moi, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et en fait, la configuration familiale fait que je me suis beaucoup occupée de mon neveu, que même encore aujourd'hui, hein, il a 26 ans, mais je le considère comme mon enfant. Et c'est vrai que très tôt, je me suis dit, je veux être maman. C'est mon objectif de vie, je veux être maman. Voilà. Mais pas n'importe comment. Enfin, c'était un point d'honneur. Mais j'ai toujours eu cette volonté,
de vouloir être maman.
Exactement.
Bah, du coup, qui dit vouloir être maman, dit rencontrer l'amour.
C'est ça.
Alors, du coup, Maïmouna, tu vas rencontrer l'amour. Est-ce que le premier amour sera tout de suite le bon avec qui tu vas construire? Comment tu chemines dans ton parcours de femme à la recherche justement de ce mari et père potentiel?
Alors après, je pense que comme
beaucoup
de femmes, voire toutes les femmes, on a toujours cru que le premier amour, c'était le bon, c'est lui.
Le prince charmant.
Le prince charmant qui arrive avec son cheval blanc. Je pense qu'on l'a tous espéré de ce premier amour. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'était pas ça.
Déjà, il n'y a pas de cheval, il a un âne.
Voilà, exactement. et ensuite, par la suite, on a des critères, quoi. On a des critères qui se font et qui se dessinent par notre parcours, par notre personnalité. Et c'est vrai que moi, alors j'avais la barre très très haute, hein, parce que moi, mon père, c'est le premier homme de ma vie. Et il fallait que mon mari ressemble à mon père. C'est des critères très hauts. Et puis je pense que, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à atteindre ce modèle-là, mais on sait quelque chose qu'on vise plus ou moins.
Et du coup, à quel moment tu rencontres celui avec qui tu vas te projeter dans une vie de couple? T'as quel âge? Comment ça se passe? Comment tu le rencontres?
Alors, c'est arrivé très tard. Enfin, très tard. Qu'est-ce qui est tard? Voilà, en fonction
par rapport à ta projection à toi.
Voilà, par rapport à ma projection à moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants très tôt, me marier très tôt, etc. Et encore une fois, pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Ça, je voulais pas déroger à ça. Donc, ça a pris du temps pour arriver à trouver cette personne qui, pour moi, correspondait au père de mes enfants.
T'as quel âge à peu près?
Quand je l'ai rencontré, j'avais 35 ans.
35.
Voilà.
Donc, 35 ans, tu le rencontres. Comment vous rencontrez?
On se rencontre par le biais d'amis. Voilà, par le biais d'amis. Et c'est vrai que tout de suite, ça a été une évidence. Voilà. Il avait déjà ses deux filles. Il m'a parlé de ses deux filles. Et tout de suite, je pense que quand on arrive à un certain âge, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. Voilà. Et donc, je pense que les choses sont beaucoup plus simples. Et qu'on est moins dans l'hésitation, on est moins dans... on se prend la tête parce que les choses ont fait qu'il y a des aspects où on devient plus mature, en fait. Voilà.
Donc là, tu rencontres ton compagnon. Lui, il est déjà papa, donc il est déjà dans une parentalité. Quand tu le rencontres, comment ça se passe, la rencontre avec ses enfants? Du coup, tu rencontres quelqu'un qui te donne tout de suite ce statut de maman tant espérée, finalement, quelque part. Comment ça se passe?
Alors,
déjà, il vit avec ses enfants, il vit pas avec ses enfants.
Il vit avec ses enfants, il a ses enfants une semaine sur deux.
Ok.
Voilà, il a ses enfants une semaine sur deux. Quand on s'est rencontrés, la plus jeune avait 7 ans et l'aînée avait 11 ans. Voilà, donc tout de suite, la relation s'est faite avec les enfants. Enfin voilà, il n'y a pas eu de difficultés. Après, je pense que aussi mon parcours perso avec tous mes neveux et nièces et puis mon parcours professionnel fait que... Enfin voilà, on sait comment créer le lien avec les enfants, etc. Après, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est d'avoir ma place de belle-mère. Mmh. Voilà, et d'avoir celle de moi, enfin avoir la place que moi je souhaitais avoir.
Mmh. Voilà. Parce que du coup, toi, quand tu vas t'installer avec ton conjoint, vous avez les enfants une semaine sur deux, donc t'es dans la casquette de la belle-mère.
Exactement.
Une semaine sur deux. Comment on pose les règles avec son conjoint? Est-ce que les mamans des filles, elles sont présentes dans la vie des filles, enfin, parce que j'imagine que c'est pas la même chose quand on a des enfants qui sont en garde alternée, quand on les a pas, s'il y a une bonne relation entre les ex-conjoints. Est-ce qu'ils s'entendent déjà?
Alors, les ex-conjoints s'entendent très bien.
Okay.
Voilà, ils ont vraiment une relation respectueuse l'un envers l'autre. Enfin voilà, ils fonctionnent vraiment de manière intelligente pour les enfants.
Donc du coup, toi, tu viens t'inscrire dans un trio parental.
Voilà. C'est ça.
On te donne ta place entièrement ou pas? Comment vous fixez les choses dès le départ?
Eh ben en fait, c'est ça la grande problématique, c'est que les choses n'ont pas été fixées dès le départ. Voilà. Le problème, c'est que tout de suite, ça a été... je ne cherche pas une mère pour mes enfants.
Mmh.
Sauf qu'effectivement, elles ont leur mère. Donc, je ne suis pas là pour prendre la place de leur mère. Voilà. Mais il aurait fallu qu'on me laisse cette place de belle-mère. Enfin... Au moment où je me suis mariée, ma mère et ma grande sœur, un peu le côté un peu culturel, hein, fait en sorte que ces enfants sont les tiens, éduqués comme tes propres enfants. Voilà.
Avec l'amour,
avec tout ça.
C'est souvent la belle-mère. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais on se dit c'est qui tout double, quoi. Soit t'as une belle-mère, voilà.
C'est ça. Et moi, je suis vraiment partie dans cette optique de me dire que de toute façon, j'avais déjà deux enfants, quoi. Voilà. J'ai déjà deux enfants.
Qui
sont les miens, etc. Je vais faire en sorte que ça continue comme ça. Sauf que ce trait d'union entre ces filles et moi, il n'a pas été fait.
OK.
Voilà. Et ça... Enfin, moi, je considère que c'est au père de faire ce trait d'union. C'est lui
Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi?
De me faire confiance, je pense. Mmh. Voilà. De me faire confiance et de... Et oui, de juste... de confiance et de considération.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Donc, tu dis que les règles n'ont pas été fixées, mais dans le quotidien, ça se passe comment? Est-ce que tu prends des décisions pour ces enfants? Est-ce que tu les emmènes au sport? Est-ce que tu es la belle-mère qui n'a pas son mot à dire? Est-ce que tu poses l'autorité, le cadre? Comment ça se passe, finalement?
Eh ben, en fait, moi, ce que je dis, et ce que je dis encore aujourd'hui, hein, c'est que j'avais la place de la babysitter ou de la gouvernante. Tu vois, celle qui est là pour... les accompagner au sport, aller les chercher à l'école, préparer le repas, faire tout ce qu'il y a autour d'elles, voilà. Mais on ne pose pas le cadre, quoi. Mm. S'il y a un problème, on en parle le soir, quand les parents rentrent, on en parle aux parents. Tiens, aujourd'hui, il y a eu ce problème-là. Et ensuite, c'est les parents qui reprennent avec l'enfant.
Alors, ça veut dire que, si je comprends bien, pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire que, par exemple, dans la configuration dans laquelle tu es, c'est s'il y a un souci, enfin, tu vas gérer le quotidien avec les filles, mais par contre, s'il y a un problème, c'est leur père et leur mère qui vont régler le problème, et toi, tu es exclu du problème, même quand tu...
Voilà. Même si moi, je suis présente.
T'as pas ton mot à dire, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, ça a été très, très problématique. Et en plus, ma fille Aïda est arrivée très tôt. Elle est arrivée au bout d'un an de mariage. Donc, du coup, enfin, voilà, naturellement, et puis aussi, je pense, inconsciemment, bah, on se détache. On se détache de ces belles filles et on se rapproche de nos enfants. Et donc, ça fait cette scission et ça crée deux familles, ça crée deux entités.
Dans une même maison.
Dans une même maison.
Donc, tu disais, tu vas tomber enceinte au bout d'un an. Est-ce que c'est une grossesse désirée, non désirée? Est-ce qu'avec ton conjoint, vous avez envie de cet enfant? Comment on se projette justement dans cette idée de se dire... Parce que tu le disais, hein, les filles, elles sont petites, elles ont 7 et 11 ans. Donc, la première partie, la lune de miel, on va dire la première année, bah, c'est cette vie dans un foyer recomposé. C'est pas tout de suite, j'imagine, que se manifestent les difficultés de cadre...
C'est immédiatement. C'est tout de suite.
Donc du coup, dès le départ, vous êtes déjà confronté à, on va dire, un désaccord éducatif.
Oui.
Mais vous envisagez d'avoir un enfant à vous. Mm. Comment ça se pose? Comment on en discute?
Bah parce que en fait, on y croit. On se dit que dans tous les couples, il y a des problèmes, il y a des il y a des choses qui ne vont pas, mais à un moment donné, on discute.
On va apprendre à
ajuster. On va apprendre à se connaître, on va réguler. Enfin voilà, on se dit que ça va venir avec le temps, on prend le temps, etc. Donc naturellement, voilà, on est des jeunes mariés, on a envie d'avoir un enfant. Et puis voilà, à partir de là, on a Aïda qui arrive naturellement dans cette famille.
Du coup... t'es enceinte d'Aïda, ça y est. Comment tu sais que t'es enceinte? Comment tu l'annonces? Comment c'est accueilli? Parce que du coup, t'es enceinte, t'as 36 ans.
Oui, c'est ça. Je suis enceinte, j'ai 36 ans. Alors, je l'apprends, alors je tombe enceinte très rapidement. Hein. Donc, au moment où je l'apprends, voilà, je suis remplie de joie, je suis très heureuse. Et quand je lui annonce, il est aussi très heureux. C'est vraiment une grossesse voulue des deux côtés. Et voilà, la grossesse se passe bien.
Toc, elle arrive.
Voilà, c'est ça. L'accouchement aussi. Enfin, l'accouchement un peu plus compliqué. Mais je crois que si tu fais un podcast sur les accouchements, on en reparlera.
Pourquoi c'est compliqué pour toi?
C'est compliqué parce que premier accouchement, très douloureux, très éprouvant. Autant la grossesse, j'ai pas eu de problème. Autant l'accouchement, et puis pour les deux accouchements, hein, ça a été, voilà.
Un sujet.
Voilà, c'est ça.
La rencontre avec Aïda, ça y est, elle est ça là, est. Tu la prends dans tes bras. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement?
On est submergé d'émotions, on est submergé par... Les larmes coulent toutes seules. Vraiment, j'ai cette vision, et puis je m'en rappellerai toujours, parce que dans la maternité où j'ai accouché, c'est vraiment une belle maternité à Versailles, à Mignot. Et en fait, la salle de travail où j'étais, il y avait une énorme fresque en face de moi d'une femme typée, enceinte, mais les couleurs tellement doux, chaleureux. Vraiment, cette image, je crois qu'elle restera à vie en moi. Et du coup, au moment où puis j'ai été la chercher, on m'a proposé d'aller la chercher. Donc, j'ai été la chercher, je l'ai posée sur moi. Et puis, les larmes, elles coulent toutes seules, quoi.
Une fontaine.
Ah oui, vraiment.
Aïda arrive à la maison. Comment ça se passe, l'arrivée de bébé? C'est sur l'attente.
Alors, comment elle est accueillie? Vraiment, elle est accueillie. Voilà, elle est chouchoutée. Et puis en plus, elle est arrivée 2 mois pile poil avant le confinement. Donc ça a vraiment été un bébé qui a comblé en fait cet isolement à la maison, quoi. Mmh. Voilà, c'était alors oui, on était tous isolés.
Elle est arrivée au bon moment.
Voilà, elle est arrivée au bon moment et j'ai pu pleinement profiter d'elle, quoi. Vraiment.
Tu parles justement de la période Covid. On a peur. Pour ce tout petit bout qui naît dans un environnement du coup qui devient un peu anxiogène pour tout le monde. Comment se passe le confinement à la maison avec Aïda, les filles? Elles sont confinées avec vous, chez leur mère?
Elles sont confinées chez leur mère parce que du coup leur mère elle était en chômage partiel, okay, comme ça, ouais. Ça s'appelait à l'époque, donc ça s'appelle toujours, donc elle travaillait de la maison, elle était en télétravail. Et du coup, l'école continuait Donc, elles avaient les cours à distance. Sauf que de mon côté, moi, je venais d'accoucher. Sauf que mon mari, lui, travaillait.
Okay.
Il est responsable logistique, donc il continuait à aller travailler sur site, etc. Donc, en fait, étant toute seule avec ce petit bébé, je ne pouvais pas en plus gérer les filles, plus l'école à distance, etc. Donc, elles ont fait le confinement chez leur mère. Et donc, moi, j'ai vraiment fait le confinement
Donc avec Aïda. Donc, on découvre pleinement cette maternité. Et du coup, le confinement permet vraiment cette rencontre.
Exactement.
Aïda grandit, puis tu vas retomber enceinte de jumeaux cette fois-ci. Mm. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont rapprochés? C'est un choix? C'est pas un choix? Est-ce que c'est bébé surprise, pas bébé surprise? Comment c'est vécu? Comment tu l'annonces?
Alors, ça a été un choix pour moi, pas pour monsieur, parce qu'il avait déjà deux enfants. Donc, avec Aïda, ça faisait trois enfants et puis il n'en voulait pas plus. Donc ça a été aussi un combat de le convaincre, en tout cas pour moi, d'avoir cette deuxième grossesse, parce que c'était vraiment une volonté de ma part d'avoir deux enfants.
C'est-à-dire que tu commences à lui dire, bon chéri, là c'est peut-être le moment de remettre ça, et il te dit qu'il ne veut pas, ou est-ce que la grossesse est déjà là et à ce moment-là on pose le sujet?
Non, je lui dis vraiment, on prépare le terrain en amont, voilà. Sachant que lui, il disait, alors moi, pour moi, c'était un choix de les rapprocher. Mmh. Voilà. Une fois qu'on est dans les nuits blanches, qu'on est dans les couches, qu'on est dans les biberons, autant y rester une bonne fois pour toutes. Et lui, c'était vraiment le choix de non, on attend qu'elle rentre à l'école, que ça se passe mieux au niveau des nuits, etc. Et après, on repart. Je dis non, enfin, moi, je vois pas les choses de la même manière. Donc, il a fallu négocier là-dessus. Et ensuite, enfin, voilà, il finit par accepter. D'avoir pour moi ce deuxième enfant et donc pour lui ce quatrième enfant supposé.
Supposé, voilà. Parce que ça va pas se passer
non,
comme ça.
Ça va pas du tout se passer comme ça.
Échographie, première échographie.
Première échographie. En fait, je prends rendez-vous chez la gynéco parce que j'ai fait le test de grossesse.
Vous êtes ensemble ou pas?
Bah non, parce qu'en fait, j'ai fait le test de grossesse qui est positif.
Ok.
Donc moi, je me dis, je prends rendez-vous chez la gynéco. Elle va juste me donner une ordonnance pour une prise de sang. Voir où j'en suis, etc. Donc, j'étais vraiment pas partie sur la première écho. Donc, elle me fait cette ordonnance. Et elle me dit, bon, on va aller vérifier quand même. Voilà, puisque vous êtes là, on vérifie, voir si tout va bien. Voilà. Donc, je m'installe, elle vérifie, premier fœtus, on entend le cœur qui bat, trop bien, je suis trop heureuse. Et en fait, comme je suis sujette au fibrome, elle me dit, bon, on va quand même vérifier l'utérus, voir si tout est OK, etc. Et donc là, quand elle vérifie, elle dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça, Madame Salle? Bon, docteur, à vous de me le dire. Voilà, elle me dit, je crois que c'est un deuxième bébé. Et là, je passe par toutes les émotions, vraiment. Vraiment, toutes les émotions.
Ils sont deux.
Mais comment ça, deux? C'est pas possible. Mais comment je vais faire? Mais je suis super heureuse parce que c'est deux enfants.
Oui.
Et là, je pense à monsieur, mais il va me tuer. Mais c'est pas possible. Comment je vais lui annoncer ça? Mais comment on va faire? La voiture, la maison, c'était pas prévu. En fait...
Un bouleversement.
Ah ouais, je pense qu'il y a une explosion dans mon cerveau là. Et là, je me dis, mais... Oh, le drame. Et je suis sortie de là. Et en fait, les premières personnes que j'ai appelées avec mes sœurs, avec qui je suis très proche, on a un groupe. Et là, je leur envoie un message. Je sors du gynéco. Ils sont deux.
Les envahisseurs arrivent.
Et là, elles me disent, mais c'est pas possible. Mais comment ça deux? Mais t'inquiète, on va t'aider. T'inquiète pas. C'est comme ça. Accepte les choses. C'est deux bébés. C'est une bénédiction. Enfin, voilà. Un vrai bouleversement, quoi.
Ça te rassure?
Non, pas du tout.
Du coup, tu rentres?
Du coup, je rentre. Lui, il s'apprêtait à aller faire du shopping avec sa grande fille. Et donc, il est dans la chambre en train de s'apprêter. Et donc, je vais le rejoindre. Je lui dis, attends, je vais te dire comment s'est passé le rendez-vous. Et je lui dis, en fait, ils sont deux. Et là, il me dit non. Je lui dis, si, ils sont deux. Il me dit non, c'est pas possible. Je lui dis, si, ils sont deux. Et donc, il part tout de suite. Tout de suite.
Il dit rien.
Il dit rien. Il part avec sa fille. Et 10 minutes après, il me rappelle. Il me dit, c'est une blague ou c'est pas une blague ce que tu m'as dit? Je dis, non, c'est pas une blague, ils sont vraiment deux. Voilà. Et ça a été très, très dur pour lui. Et puis même après la naissance des garçons, ça a été très, très dur pour lui.
C'est-à-dire que il va exprimer son inquiétude clairement, il va te faire des demandes.
Non, il se ferme.
Il se ferme, il dit rien. Donc ça y est, il sait qu'il y en a deux, mais on n'en parle plus.
Ouais, voilà.
Mais au cours de la grossesse, du coup, on commence à préparer l'arrivée de ces deux enfants. Ouais. Tu le sens détaché, tu le sens inquiet.
Alors après, puis même en discutant avec lui par rapport aux filles, c'est pas quelqu'un qui était présent au niveau des grossesses, même avec son ex-femme. Enfin, voilà.
C'est pas son dos, appelle-moi quand les petits sont
ouais,
là.
Ouais, voilà, c'est ça. Souffre en silence. Ouais. Et puis quand ils seront là, appelle-moi, quoi.
Donc, t'as cette grossesse des jumeaux. T'as Aïda qui est petite.
Ouais. T'as 12 ans et demi à peu près.
Donc, on commence à s'organiser. Ouais. Toc, 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 ils sont là. Comment ça se passe? Est-ce que là, du coup, il est plus enjoué? Est-ce qu'au contraire, c'est là où il se dit non, mais en fait.
Ouais, bah, je pense qu'il est perdu. Autant il se dit, il faut que j'assume et ils sont là. Autant il se dit, mais moi, j'en voulais pas, quoi. Mmh. Voilà. Donc, il est entre les deux, quoi.
Il est entre les deux. Et comment ça vient se manifester, du coup, dans l'organisation de cette vie complètement bouleversée, parce qu'on passe de 3 à 5 enfants, même si les filles, elles grandissent et qu'elles sont en garde alternée. Ouais. Mais du coup, tu parlais tout à l'heure de la difficulté à poser le cadre avec les grandes, parce que du coup, plus elles grandissent, plus c'est compliqué de trouver sa place. Est-ce que ça s'apaise? Est-ce qu'on trouve un équilibre dans l'éducation? Ou est-ce que ça continue à devenir... ça continue à être compliqué?
Ouais, non, ça continue à être compliqué. Parce que
ça s'intensifie, c'est pareil.
Ouais, en fait, non, enfin... Il y a des moments où ça s'intensifie, où, enfin, voilà... Moi, je dis clairement que, on est dans le, on est une famille et la vie de famille fait que il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde aide, il faut que tout le monde, c'est la vie de la famille, quoi. Mmh. Et ça a été difficile à mettre en place. Et
finalement, elle participe.
Elles vont quand même finir par participer, mais. Au bout de plusieurs conflits, quoi, entre lui et moi. Donc,
entre lui et toi,
oui.
Ça veut dire que le fait que tu demandes à ce que tout le monde mette la main à la pâte, lui, il n'est pas d'accord avec ça.
C'est ça. Lui, il n'est pas d'accord avec ça.
Du coup, c'est lui qui fait les tâches des filles ?
Exactement.
Okay.
C'est lui qui fait les tâches des filles. Tu pourrais me dire, mais tu aurais pu te contenter de ça ? Sauf que c'est difficile de se contenter de ça. Mmh. Voilà, d'être dans une famille où la femme, la mère que je suis, on est à la tête de ce foyer. Donc, on a envie que les choses fonctionnent un peu comme nous. On a envie que ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Mmh. Mais où j'essaye vraiment, et j'ai réussi à me détacher pour vraiment me concentrer sur mes enfants, quoi.
Donc du coup, forcé par la situation, par l'absence de justement de repères éducatifs, en tout cas de représenter cette figure maternelle, tu fais le choix, malgré toi, quelque part, de te dire « Ok, bon, je vais me concentrer sur les petits et puis toi et ton ex-femme, vous gérez les grandes, mais on cohabite. »
Ouais, voilà, c'est ça. On reste deux familles dans un même
foyer. T'as vraiment l'impression que du coup, on n'a pas sept familles recomposées,
c'est
mais
ça.
Deux familles dans
ouais,
une.
Ouais, ouais. Et puis même quand je pose la question à ces grandes, elles ont le même ressenti d'avoir deux familles.
Deux familles dans la même maison.
Deux familles dans la même maison et j'ai surtout pour la grande où pour elle je suis la femme de son père, quoi.
Voilà. T'es pas sa belle-mère.
Non.
Mais avec les enfants, c'est pareil. Tu sens qu'il y a les filles d'un côté et tes enfants de l'autre, ou est-ce qu'il y a une harmonie quand même entre les cinq enfants, ou est-ce que ce que tu vis dans le couple et dans cette famille recomposée, ça vient d'éteindre sur la relation fraternelle ou pas du tout?
Oh non, non. Par contre, les filles sont super proches de leurs frères et sœurs. Elles sont hyper bienveillantes. Les enfants...
C'est leurs frères et sœurs,
ouais,
quoi.
C'est
juste dans la figure parentale que ça pose problème.
Exactement.
Du coup, comment on évolue avec du coup les jumeaux qui arrivent, toi tu fais le choix de te concentrer un petit peu sur les jumeaux. Comment ça se passe dans le quotidien? Est-ce que tu vas reprendre le travail, pas reprendre le travail?
Pour les jumeaux, j'ai repris le travail un an après leur naissance. J'ai repris le travail un an après leur naissance. Alors, on est passé vite là, parce que du coup, j'ai repris le travail, mais complètement différemment, mais j'ai changé de voie.
Okay.
Voilà, parce que j'ai été éducatrice spécialisée pendant 14 ans. Et durant ce parcours, j'ai travaillé auprès de différents publics, dans différentes structures, etc. Et quand j'ai eu Aïda, où je travaillais beaucoup en internat avant, à l'arrivée d'Aïda, je me suis dit, c'est fini l'internat. C'est ma fille, donc on va chercher un poste de jour, un accompagnement de jour, etc., pour être présente pour ma fille le matin et le soir. Et une fois que les garçons sont arrivés, là, c'était vraiment... où je voulais vraiment autre chose, quoi. Je voulais sortir vraiment du côté protection de l'enfance. Et donc, j'ai repris le travail au bout d'un an en tant que professeur des écoles en SECPA. Voilà.
Donc, du coup, tu fais en sorte d'avoir un emploi du temps qui te permette de gérer et ta vie professionnelle et ta vie de famille. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti dépassée, submergée?
Ouais, il y a des moments où je me suis vraiment sentie sous l'eau, surtout l'année dernière, à la même époque, où vraiment je...
Qu'est-ce qui était difficile?
C'était difficile, et même moi, j'étais surprise dans mes réactions où j'en arrivais à un moment donné à aller m'isoler et pleurer, quoi. Parce que c'était...
Et qu'est-ce qui était difficile? La gestion du quotidien, la charge mentale, qu'est-ce qui était difficile?
En fait, c'est le tout. C'est vraiment le tout. La charge mentale qui était énorme. En plus, les jumeaux, pas tous, mais pour beaucoup, ils ont une santé fragile. Donc, beaucoup de rendez-vous médicaux à devoir gérer, beaucoup malades, donc beaucoup aux urgences. Plus le travail en tant que professeur, donc qui est prenant, autant en journée quand on travaille que le soir ou le week-end où il y a toutes les préparations à faire, la gestion de la maison, du quotidien, gérer les repas, gérer Aïda aussi qui est là. On arrive à quelque chose où on n'y arrive plus, quoi. On est fatigué.
Comment tu vas trouver le relais? Est-ce que tu vas trouver le relais ou pas? Comment tu vas sortir de cette tourmente?
Alors, je ne vais pas trouver le relais. Non, je ne vais pas trouver le relais. Je vais juste prendre sur moi.
Tu ne trouves pas le relais parce qu'il n'existe pas ou parce que tu ne vas pas le chercher? Parce que tu as les neveux, tu as des nièces, tu as tes frères et sœurs, tu disais aussi.
Oui, alors, en fait, c'est que ma famille est un peu dispatchée. Et là, mes sœurs qui me soutiennent beaucoup moralement, physiquement, c'est plus compliqué pour elles d'être là. Et puis, il y a la distance aussi. À un moment donné, même si parfois...
Vous habitez loin les uns des autres.
Enfin, on n'habite pas forcément loin, mais je me dis, c'est rajouter de la logistique. Voilà. Si j'ai besoin de souffler, par exemple, le mercredi où je ne travaillais pas, ça veut dire que le matin, qu'il faut se lever, aller faire la route, les déposer, revenir, faire ce que j'ai à faire, aller les rechercher le soir...
Enfin, c'est notre logistique.
Voilà, c'est quelque chose où je me suis dit, ça va me rajouter quelque chose. Donc, le week-end, j'arrivais un peu à aller souffler chez ma mère, auprès de mes sœurs.
Il y a un relais entre ton conjoint et toi, que j'essaye de ne pas le nommer, mais vous connaissez bien. Mais il y a un relais entre ton conjoint et toi, ça veut dire qu'il garde les enfants pour que toi, tu puisses sortir, vous faites à tour de rôle.
Là-dessus, il me relaie. Pour que je puisse sortir, pour que je puisse aller au sport, pour que je puisse... Sur tous les moments, les temps où le soir où j'ai besoin de sortir, ou même je me suis déjà fait une escapade avec des copines ou un week-end. Il garde les enfants. J'ai pu, il y a 2 ans, j'ai pu aller me recueillir sur la tombe de mon père au Sénégal. Et j'y suis allée qu'avec ma fille. Donc, il a gardé les garçons. Donc... là-dessus, j'ai pu avoir le relais sur ces moments clés-là. Voilà.
Et pourtant, la charge mentale, elle est au maximum.
Ouais.
Est-ce qu'on s'arrête sur ça un peu? Comment, tu fais pour envisager d'en sortir? Est-ce que tu commences à avoir ta stratégie en te disant, OK, bon, Là, à un moment donné, faut que je trouve des solutions pour moi, pour les enfants. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui se joue pour le coup?
En fait, je me dis qu'il faut essayer de trouver des solutions. Donc déjà, moi, ma soupape, c'est le sport. Ça, je me dis, je m'y attache, j'y vais. Et ça, là-dessus, ça bouge pas. Et ensuite, j'ai appris à me dire, lève les pieds. Mmh. À un moment donné, le ménage, il n'est pas fait. C'est pas grave.
C'est ça. Voilà.
Profite de tes enfants, sors, va faire une activité, va faire quelque chose avec eux, décharge-toi. Enfin, voilà. Le linge, il n'est pas plié, c'est pas grave, il se pliera plus tard.
Mmh.
Voilà. Le repas, il n'est pas fait pour les deux jours suivants, c'est pas grave, on fera un truc vite fait le soir en rentrant. Voilà. Mais j'ai appris à me dire, c'est bon quoi. On lâche prise un peu.
On lâche prise. T'es professionnelle de l'éducation aussi. Mmh. Comment on trouve l'équilibre? Est-ce que du coup, t'as l'impression que c'est plus simple de gérer l'organisation à la maison, etc.? Parce que pour le coup, on en a fait des organisations avec des plein de gamins. Et là, quand c'est les nôtres, en plus de la vie cote, y a les émotions, etc. Mmh. Comment on trouve son équilibre? Est-ce que finalement, ça sert? Ou est-ce que, en fait, on même enseigne que pour tout le monde, quoi. Entre ce que je sais, ce que je dois faire et ce que je fais. Pff.
Non, enfin, moi, je dirais que ça sert. Ça sert quand même parce que, dans tout mon parcours professionnel et avec les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec des collègues, avec des psychologues, avec plein de choses, on apprend des choses sur la psychologie de l'enfant, sur ses besoins, sur... les attendus, etc. Et du coup, ça permet d'essayer d'avoir la bonne posture vis-à-vis des enfants. Et en termes d'organisation, je me dis oui, heureusement que j'ai... Enfin, pour moi, c'est un plus. Cette compétence que j'ai pu acquérir au fur de mes années en tant qu'éducatrice. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie perso, pro et familiale organisée, quoi.
Est-ce qu'on est la même éducatrice et la même maman? Selon toi?
Moi, je dirais oui. Moi, je dirais qu'on peut être... Enfin, en tout cas, moi, je pense être la même maman que la même éducatrice. Je te dis ça parce que je me suis toujours dit, et puis tu as pu le voir hein, quand on a travaillé ensemble, cette casquette de bénévole qu'on mettait à tout va et où on travaillait jusqu'à des minuit, 1h du matin pour rester avec un jeune qui va pas bien, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, ça je le ferai tant que j'aurai pas d'enfants. À partir du moment où j'aurai des enfants, je n'arriverai pas à laisser mon enfant pour m'occuper des enfants des autres. Et en fait, au fond de moi, je pense que c'est pour ça que j'ai eu ma première fille tard, pour pouvoir donner tout ce que j'avais à donner à ces enfants-là, à leur apporter, peu importe ce qu'on peut dire, l'affection dont ils avaient besoin, en tout cas dans mon accompagnement, etc., pour ensuite pouvoir me détacher et pouvoir me consacrer exclusivement à mes enfants. Voilà. Et aujourd'hui, oui, je pense que mon parcours m'a permis d'être la mère que je suis, la femme et la mère que je suis aujourd'hui.
Tout à l'heure, tu disais que ton métier, c'était aussi quelque chose qui t'aidait hein, dans la vie quotidienne. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'éducatrice ou t'as ici enseignante en SECPA également, mais t'as pas d'enfants porteurs de handicap ou qui subissent de retard, donc peut-être que ça se traduit moins, mais est-ce que t'as l'impression que du coup, ça met pas une sorte de pression? Pression par rapport aux attendus, par rapport aux difficultés aussi qu'on peut rencontrer à certains moments, parce que t'es une professionnelle, t'es une experte de l'éducation, de l'accompagnement, des difficultés, parce que l'éducateur, il travaille là où il y a souffrance. Est-ce que t'as l'impression que ça met pas une certaine pression par rapport à comment ça se passe à la maison? Au regard que les autres peuvent porter sur comment ça se passe et...
Non, j'ai pas eu cette impression-là où je pouvais ressentir une pression dans l'éducation que je pouvais apporter à mes enfants du fait de mon parcours. J'ai pas eu l'impression de ça. Après, peut-être que le fait d'avoir eu et d'avoir vu des enfants en souffrance à cause de carences affectives, carences éducatives, etc. Du coup, on peut se dire, voilà, on peut avoir cette pression en se disant, voilà, je sais ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Je sais ce que mon enfant attend de moi parce que je veux pas en arriver là, en fait. Donc, effectivement, on va parfois essayer de pas lâcher le morceau quand ton enfant fait un caprice ou quand ton enfant veut absolument quelque chose ou même dans l'éducation, dans ce qu'on peut transmettre aux enfants, etc. Avec cette problématique de ce qu'ils voient à côté, à l'école, tout ça. Je pense que oui, si. Ouais, non, en fait, je peux dire qu'il y a une pression.
Il y en a
Ouais.
une. Et tout à l'heure, tu vois, par exemple, dans l'accompagnement notamment des enfants, on travaille directement ou indirectement sur cette question de la parentalité. Et du coup, on voit aussi les effets de certaines postures éducatives sur les enfants. Et ça peut être culpabilisant. Et moi, j'aimerais m'arrêter en me disant, quand tu demandes justement à avoir cette place dans la structure familiale par rapport à tes belles-filles qui vont être sous ton autorité une semaine sur deux, est-ce que tu as en tête justement les dégâts des désaccords que peuvent causer le fait de ne pas être en harmonie par rapport aux filles qui vont devenir adolescentes? Et est-ce que du coup, tu as des signes de choses qui, pour toi, étaient courues d'avance, que tu peux observer?
Bah moi oui, enfin ça je savais pertinemment qu'en n'ayant pas cette place et et en ne pouvant asseoir mon autorité auprès des filles, il allait forcément y avoir des conséquences. Après, c'est des filles et des enfants très respectueuses, elles m'ont jamais manqué de respect. La relation a toujours été correcte. Malgré tout, il y a de l'affection. Il y a un lien qui s'est quand même fait. De les entendre dire qu'on n'a jamais été une famille, et une seule famille, c'est
C'est
les
violent.
conséquences. Ouais, c'est violent. C'est vraiment violent. Et puis, enfin, je leur ai clairement verbalisé en leur disant que pour moi, je le vis comme un échec. Voilà.
Pourquoi?
Bah, de ne pas avoir réussi à former cette famille que je rêvais tant, au final.
Mais tu es consciente que, quel que soit ce que tu vas mettre sur la table, les projections que tu as, c'est un travail d'équipe. Et du coup, peut-être que, justement, de fait, par le fait d'avoir un conjoint qui te demande de ne pas intervenir éducativement parlant, finalement, c'est pas ton échec.
Oui, c'est sûr que c'est pas mon échec, mais c'est voilà, c'est quand même là, c'est quand même présent parce que je me dis enfin voilà, ce rêve d'enfant d'avoir une famille unie au final, j'y suis pas arrivée, quoi.
Le couple tient bon malgré ces difficultés-là. Est-ce qu'on tient bon? Est-ce qu'on se projette différemment avec les trois derniers? Comment on envisage la suite? Est-ce qu'on l'envisage? Est-ce qu'on l'envisage pas?
C'est dur de se projeter. Clairement, c'est dur de se projeter. On vit un peu au jour le jour, en se disant où est-ce qu'on va, où est-ce que quel chemin on prend. Mais on continue à avancer en ayant en tête que on a des enfants ensemble et que quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne et peu importe la décision qu'on prendra. On restera liés
À
grâce à
vie,
ses
de toute
enfants, en
façon,
fait,
oui.
à vie. Donc, on continue quand même de travailler, entre guillemets, ensemble dans l'éducation des enfants et leur donner une éducation commune.
Si tu devais parler à la jeune fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais... Comment je pourrais dire ça? Garde cette force que tu avais et ce message que mon père a pu me transmettre étant plus jeune. Et surtout, ne laisse personne te dire... te dire ou faire... enfin, comment dire? En fait, cette relation-là a enlevé une partie de moi, a éteint une partie de moi. Voilà.
Laquelle tu l'identifies?
Cette paix intérieure que j'avais.
Voilà. C'est vrai que Maïmouna est peace. Maïmouna, ouais. C'est peace, love et...
Voilà.
Et fou rire, t'as l'impression que ça a éteint cette partie de toi.
Ça a éteint cette partie-là de moi. Et j'ai une très très bonne amie que je connais depuis très longtemps qui m'a dit ta lumière, elle s'est éteinte. Voilà. Et en fait, j'aurais envie de dire à cette jeune fille que j'étais, ne laisse personne éteindre cette lumière. Mmh. Fais tout pour la rallumer et voilà.
Et est-ce que, avec le recul, t'arrives à identifier à quel moment l'intensité se baisse, ou est-ce qu'en fait, tu t'en rends compte une fois que ton ami te le verbalise?
Non, petit à petit, je m'en rendais compte, sans forcément en l'identifier. Mmh. Mais je me rendais compte que quelque chose changeait en moi. Et quand elle me l'a dit, je dis, elle a complètement raison. Mmh. Enfin, voilà. Elle a vu juste.
Et du coup, à la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place une fois que tu l'as dit pour justement rallumer cette lumière? Est-ce que tu...
Enfin voilà, on envisage les choses différemment. On envisage un parcours de vie différent où on se dit que la priorité, c'est soi. Voilà. Je pense à moi avant de penser à tout ce qu'on peut dire autour et tout ce qui va se jouer. Enfin voilà, le côté culturel, le côté tradition, le côté tout ça. Et je pense que une fois qu'on est en accord avec ça, et ben en fait, on peut nous envoyer toutes les flèches qu'on veut. Il y a ce bouclier qui les renvoie dans l'autre sens et on avance, quoi.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as peur, ou en tout cas, t'es en train de travailler sur comment réceptionner culturellement et ce que renverrait à la société une décision qui, dans les us et coutumes...
C'est ça. Mais j'y ai clairement... Enfin là, j'arrive au bout de ce travail. Hein. Mmh. Là, ça y est, là, je suis... Les gens peuvent arriver. Les traditions peuvent arriver,
elles
venez,
ne
quoi.
Sont pas une excuse.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se reconnaîtrait dans ton récit? C'est-à-dire que l'idée de ce podcast, c'est aussi que des femmes de tout milieu confondu, où qu'elles soient dans le monde, entendent des parcours qui résonnent en elles. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à cette auditrice qui t'entend et qui se reconnaît dans ton histoire? Si tu avais une alerte à lui donner et un conseil.
Alors, à celle qui m'entend et qui est au tout début de ce parcours, c'est-à-dire qu'elle vient de rencontrer cet homme qui a des enfants, j'ai envie de lui dire, prends une feuille, un stylo, écris et dis-lui, aujourd'hui, ça sera ça. Ça, moi, ma place de belle-mère, ça sera ça. Je veux être comme ça avec tes enfants. Je veux que tu me laisses cette place avec tes enfants. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord...
Un signal d'alerte,
ouais,
quand même.
Voilà. Après, pour moi, il faut tout de suite, il faut parler de quelle est ta vision de la belle-mère? Quelle est ta vision de la famille recomposée? Comment tu vois les choses? Comment tu vois le lien entre nos enfants et tes enfants? Je pense qu'il faut parler, c'est la communication à la base. Vraiment. Vraiment.
Si... si tu pouvais transmettre un message aussi d'espoir en se disant que malgré les us, les traditions, les coutumes, malgré le quand dira-t-on, quand on fait de soi une priorité, qu'on se lance, quel est le message que tu veux transmettre à Aïda derrière ça ? Aïda qui est ta fille du coup.
Ouais, Aïda, je lui dirais le message suivant. Le plus important, c'est ce que elle pense, ce que elle veut et la manière dont elle vit les choses. Les traditions, c'est une chose. C'est ce qu'il a construit, c'est ce qu'il m'a construit, ça fait partie de nous. Mais il ne faut pas que ça vienne prendre le dessus sur ta paix intérieure. À partir du moment où tu décides de faire une chose ou de prendre une décision à cause des traditions et que toi, tu te poses la question de « est-ce que je suis bien si je reste dans ce parcours-là ou si je respecte les traditions ou est-ce que je ne suis pas bien ?» Tu auras la réponse. Voilà. Si tu te sens bien, tu peux y rester. Si tu ne te sens pas bien, pars. Voilà, c'est vraiment le message que je veux lui transmettre, quoi.
Ben c'est un beau message et je pense que toutes les femmes qui t'entendent peuvent aussi peut-être avoir aussi ce déclic en se disant bah, finalement, ce qui n'est pas bon pour toi, ne te l'impose pas.
Exactement.
En tout cas, essaye au maximum de ne pas te l'imposer. Et quand on prend conscience, bah, faut faire des choix et faut réfléchir, discuter, être accompagné. Merci Maïmouna pour l'authenticité
avec plaisir.
De cet échange. Je pense qu'il va servir à beaucoup de femmes. Au-delà de ce qu'on peut penser, des fois, on a l'impression que ce sont des temps d'échange qui peuvent être... un temps en tout cas qui peut être banal comme une discussion entre deux femmes sur la parentalité, sur son parcours, et pourtant chez certaines ça résonne tellement fort.
Exactement.
Et surtout pour celles qui sont isolées. Je remercie mon Paris FM de nous donner un espace justement pour que les femmes, les mères, les hommes aussi viennent prendre la parole pour se raconter à travers leurs histoires et leur parentalité. Et vous pouvez nous retrouver en direct sur mon Paris FM ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci de diffuser, de partager autour de vous. Et à très bientôt. Merci Maïmouna.
De rien, à très bientôt.
Allez, ciao.
Salut.